France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui spécial, Hervé Offenbach, le premier à inventer l'opérette. Le second a porté au sommet l'opéra bouffe. Aujourd'hui, Hervé est à l'affiche du Théâtre Marigny dans Le Retour du Lys, tandis que Dominique Guéquier publie un livre passionnant sur la troupe d'Offenbach. Il est mon invité en compagnie d'Étienne Jardin pour évoquer toute cette actualité. En fin d'émission, Serge Elaïc évoquera les chansons de Paul Misraki. Mais pour vous dégourdir les jambes, je vous invite d'abord à danser le rock and roll.
Oui, toi.
Quel est donc ce grand vent de folie? Dites-moi, dites-moi, les amis. On ne parle que de ça aujourd'hui. Et pour être à la page, il nous faut danser rock, chanter rock, être rock. À chaque instant, n'importe où, c'est idiot.
Allez, viens chanter Josh, viens chanter Josh, viens chanter le rock and roll.
Non.
Viens danser Josh, viens danser Josh,
viens danser le rock and roll.
Non, non.
Viens danser,
non.
Viens chanter,
non. Je ne veux pas. Ce n'est pas fait pour moi.
Allons, viens jouer Josh, viens jouer Josh, viens jouer le rock and roll.
Mais non.
Viens siffler Josh, viens siffler Josh,
viens siffler le rock and roll.
Non.
Viens jouer,
non.
Viens siffler,
non. N'existe pas, ce n'est pas fait pour moi.
Josh,
oui.
Viens chanter le rock.
Danser, vous croyez? Oui.
Viens chanter le rock.
Chanter, ah bon. Je veux bien essayer sur le champ. Mais surtout ne soyez pas indulgent. Mettez-moi dans l'ambiance en chantant. Et après la leçon je pourrai danser rock, chanter rock, être rock.
Douba, ouba, 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 ouba,
ouba. Je ne pourrai jamais faire ça.
Mais si, mais si. Douba, ouba, 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 ouba. Ça va mieux, hein?
Ah oui?
Douba, 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 douba.
Bravo, bravo, continue, c'est parfait.
Alors je vais chanter, je vais chanter, je vais chanter le rock'n'roll. Je vais danser, je vais danser, je vais danser le rock'n'roll. Je vais danser, je vais chanter. Oh,
ça y est, tu es dans le coup, oui, c'est fou.
Alors je vais jouer, je vais jouer. Je vais siffler, je vais siffler, je vais siffler le rock and roll. Je vais danser, je vais chanter.
Oh. Et bien tu passes, c'est pas très compliqué.
Ah merci de tout cœur les amis. Grâce à vous je suis rock aujourd'hui. Mais pour que mon public soit ravi, je vais pousser pour lui mon si bémol en chantant avec vous. Vive le rock and roll.
Georges Guettaroc, Guettari, à l'époque où tout le monde se croyait obligé de se mettre à la page. Une rencontre amusante, en tout cas, entre le monde du twist et celui de l'opérette. Et juste avant de retrouver mes invités, un petit coup de chapeau à Jacques Loussier qui nous a quittés cette semaine. Je l'avais reçu voici quelques années. C'était un musicien hors pair, arrangeur des fameux playback, mais aussi compositeur de cinéma, accompagnateur exceptionnel, si j'en crois, mon ami Suzy Delair, mais aussi facétieux détourneur de musique, comme il le fait dans cette petite valse de Chopin.
Thank you.
Ah oui, un disque très étonnant et méconnu de 1980. Ça s'appelait Jacques Loussier par Frédéric Chopin. Et voilà, il revoit comme ça à sa façon toutes les valses. En tout cas, on reviendra bien sûr à Jacques Loussier. J'ai même déjà décidé avec mon ami Serge Laïc de lui consacrer au moins une chronique avant l'été parce qu'il avait un métier tellement divers et tellement brillant.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais sans plus attendre, donc, nous retrouvons nos invités à l'occasion de la production au Théâtre Marigny du Retour d'Ulysse d'Hervé et puis aussi de la parution d'un livre sur la troupe d'Offenbach par Dominique Guéquière qui est donc mon invité avec Étienne Jardin de la Fondation Brouzanne qui lui donc veille sur cette production d'opérette de retour donc au Théâtre Marigny.
Toc tintin, noyons dans le vin la mélancolie, et que la folie succède soudain à tout noir chagrin, bouteille jolie, à toi mon refrain. Ticket toc tintin, noyons dans le vin la mélancolie, et que la folie succède soudain à tout noir chagrin, bouteille jolie, à toi mon refrain. Vous qui vous le premier rang, rimeur courant après la gloire, c'est le vin qui rend éloquent, le vrai talent consiste à boire. Qu'un tonneau soit votre sujet, prenez un robinet pour lire, car les vers au cabaret sont meilleurs à vider qu'à lire. Ticket toc tintin, noyons dans le vin la mélancolie, et que la folie succède soudain à tout noir chagrin, bouteille jolie, à toi mon refrain. Ticket toc tintin, noyons dans le vin la mélancolie, et que la folie succède soudain à tout noir chagrin, bouteille jolie, à toi mon refrain.
Bonjour Dominique Guéquière.
Bonjour Benoît.
Ça me fait plaisir de vous revoir ici. Vous êtes venu souvent nous parler d'Hervé. Là, je voulais commencer par une chanson joyeuse. C'est pas très correct de chanter les plaisirs de l'alcool de nos jours, mais vous qui aimez l'opéra comique et l'opérette, vous devez être habitué aux chansons sur le vin, n'est-ce pas?
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
C'est un vaste répertoire.
Un vaste répertoire, aussi vaste que nos vignobles, nos grands crus.
Voilà. Et ici, c'est donc un extrait du Retour d'Ulysse d'Hervé qui va être donné très prochainement à Paris au Théâtre Marigny. Bonjour Étienne Jardin.
Bonjour.
Voilà, c'est une œuvre donc que vous avez choisie dans le cadre de ce cycle, il faut le dire, pour tous les amoureux de l'opérette qui nous écoutent, de ce cycle d'opérette donc qui a commencé tout récemment à Marigny et qui est amené, je pense, à se poursuivre.
Oui, c'est ça, une saison d'opérette à Paris. Voilà. Qui a commencé en janvier 2019, qui se poursuit tous les mois ou tous les deux mois et qui se poursuivra encore la saison prochaine.
Voilà, et qui est parrainé, il faut le dire, c'est pour ça que vous êtes là.
Par le Palazzetto Brusane.
Palazzetto Brusane. Je rappelle aux auditeurs que c'est donc une institution qui fait un travail de fond sur le répertoire français et qui se charge aussi de le faire jouer. Et donc là, en l'occurrence, vous êtes marié d'une certaine façon avec Jean-Luc Choplin peu après la réouverture de Marigny.
Oui, je pense qu'il a accueilli avec bienveillance la proposition qu'on lui a faite de venir proposer des spectacles autour de ce répertoire, qui sont des spectacles qui ne sont pas forcément faciles à programmer habituellement, parce que c'est des petits formats.
Des opérettes en un acte.
Des opérettes en un acte, donc parfois moins d'une demi-heure, mais là, elles sont couplées par deux, ou quand elles sont un peu plus importantes, elles sont jouées toutes seules, mais on lui a proposé comme ça de faire des redécouvertes de répertoire d'œuvres qui n'avaient pas été jouées à Paris depuis très longtemps.
Et vous avez choisi donc Le Retour d'Ulysse d'Hervé. Pourquoi cette œuvre-là?
Parce que c'est une œuvre très intéressante d'Hervé. Je pense que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'œuvres d'Hervé qui sont totalement nulles et inintéressantes, et donc autant commencer par celle-ci. Mais on a commencé même avant, parce qu'on a proposé en janvier le compositeur toqué d'Hervé,
voilà,
qui est une œuvre un peu fondatrice pour
puisque c'est le surnom dont on l'a parfois affublé,
oui,
n'est-ce pas,
le succès,
le compositeur toqué
avec un double sens, puisque il a commencé à Bicêtre.
Oui, en plus, il avait commencé dans un asile, oui. Effectivement. En tout cas, vous qui aimez Offenbach autant qu'Hervé, ça doit vous faire plaisir de voir qu'il y a des opérettes à Marigny, parce que rappelons-le, Marigny, c'est pas tout à fait n'importe quel lieu dans l'histoire de ce genre.
Loin de là, loin de là. C'est un théâtre qui a vu naître des notes qui nous sont chères, notamment, évidemment, Offenbach.
Voilà, les premiers bouffes parisiens.
Les premiers bouffes parisiens ont été fondés, pas dans ce théâtre-là, mais à cet emplacement-là.
À cet emplacement-là, oui. Voilà. Alors, le cycle va se poursuivre. On va parler, bien sûr, aujourd'hui, d'Hervé et d'Offenbach, auquel vous venez de consacrer un livre passionnant, Dominique Guéquer. Et puis tiens, pour rester dans le ton de cette époque, j'ai choisi un extrait d'un autre compositeur que j'adore tout à fait de la même période et que vous allez aussi présenter prochainement à Marigny, c'est Frédéric Barbier. Juste un petit mot et puis on écoute le début des deux choristes. C'est pas l'œuvre que vous allez donner bientôt, mais c'est aussi un personnage important de ce temps-là. Étienne Jardin.
C'est une personnalité qu'on connaît mal, en tout cas, hein, qu'on rejoue pratiquement jamais et qui sera jouée en juin avec une œuvre qui s'appelle Faust et Marguerite, qui est une sorte de parodie des chanteurs qui chantent dans les petites villes de France et qui essayent de s'attaquer au grand répertoire et qui finalement, en se disputant dans les loges, loupent leur entrée sur la scène.
Voilà, c'est un sujet que visiblement il aimait bien parce que c'est justement aussi le sujet des deux choristes.
Succès !
Quel triomphe !
Enfoncez Capoule !
Enfoncez toutes les basses de l'univers !
Nous sommes les premiers choristes du midi du centre et du nord. Et l'on va chercher des artistes, et l'on va chercher des artistes.
Bien loin lorsqu'on a porté nord.
Et pour pas se tailler, c'est fort.
Des gens comme nous, c'est trop fort.
Oui, c'est trop fort, oui, c'est trop fort.
Car nous sommes les premiers choristes
du midi du centre et du nord.
C'est trop fort. Dans les grandes villes du monde, j'ai su, je le dis hautement, épater le public à la ronde par mon timbre. On dirait du cristal, n'est-ce pas?
Oui, du verre cassé.
Par mon timbre resplendissant.
Et moi donc, quelle voix de basse, et combien sont chauds mes accents, les spectateurs demandent grâce, on les retrouve sous les bancs.
Nous faisons l'admiration.
Et voilà Frédéric Barbier, ça vous plaît? Ah Dominique
oui, ça fait penser aux deux chanteurs sans place.
D'Hervé, qui est aussi sur le même sujet. Voilà, les chanteurs un peu ratés, les seconds couteaux, qui ont eu des grandes ambitions.
Puis revu par Hervé, hein, puisqu'il y en a un là-dedans qui devient allergique aux contrutes, et l'autre qui a loupé son contrat parce que son air d'entrée, c'était au feu, et tout le monde se sauvait du théâtre.
Mais je me dis aussi que quand on écoute cet enregistrement dirigé comme beaucoup de ce qu'on peut entendre de cette période par Marcel Cariven, mais surtout avec ces deux chanteurs, Jean Giraudeau et Jacques Mars, on a l'impression un peu peut-être d'avoir des personnalités comme celles sur lesquelles vous avez écrites et qui faisaient aussi la gloire d'Offenbach et d'Hervé.
Tout à fait.
Des chanteurs, diseurs, acteurs.
Ah oui, ils avaient toutes les nuances à leur palette. Hein. C'était vraiment des talents exceptionnels.
Et vous avez remarqué évidemment que Jean Giraudeau citait un des grands interprètes d'Offenbach qui est dans votre livre sur la troupe d'Offenbach, Capoule. Voilà. Rappelez-nous qui était Capoule en deux mots.
Capoule était un ténor qui était célèbre par sa voix et par sa coiffure.
Oui.
Et son côté charmeur auprès des
dames. Voilà, c'était plutôt un chanteur de charme, lui.
Ah oui, voilà. Oui, il avait le contrut qui était très charmant, qui touchait le cœur des dames. Hein, avec tout le monde avait, paraît-il, une des mèches de Capoule en médaillon, et le journaliste de dire que c'était un peu comme la Sainte Croix.
Et quelle a été l'importance de Capoule dans la carrière de Offenbach? Il a créé beaucoup de rôles, un rôle important.
Oui, c'est le rôle de Werther à l'Opéra Comique.
Werther, donc, qui était une œuvre un petit peu oubliée aujourd'hui. Hein.
Ah, c'est une œuvre que le disque a remis il y a quelques années un petit peu en avant, mais la partition est très intense, et ça fait partie de la progression d'Offenbach qui se dirige doucement à chaque marche de l'Opéra Comique vers les contes d'Hoffmann.
Voilà. Alors, tout cela, ces chanteurs, vous en parlez évidemment dans donc, La Troupe de Jacques Offenbach, hein, qui vient de paraître aux éditions Symétrie. On va y revenir tout à l'heure. Mais il se trouve que vous avez écrit auparavant Hervé, un musicien paradoxal. Vous étiez venu nous parler donc de quelques aspects de l'œuvre d'Hervé, Dominique Guéquière. Et aujourd'hui, ben, on va compléter nos précédentes conversations avec quelques petits extraits que vous avez choisis avant de revenir, bien sûr, avec Étienne Jardin au retour du Lys et aux autres œuvres d'Hervé. Alors, pour commencer, vous avez choisi un extrait de L'Élixir.
Oui. Parce expliquez-nous. Que c'est une œuvre tout à fait particulière de Hervé. Tout laisse penser que Hervé a composé cet ouvrage lorsqu'il était en prison.
Ah oui.
Dans les années 1856, 57, 58. Et
donc peu après la création des premières opérettes.
Tout à fait, dire, hein. Tout à fait, au vrai sens du mot. Ouais. Et par conséquent, il y a là une écriture tout à fait différente. On sent un peu la marque d'Aubert qui a été un de ses maîtres. Et le livret est en vers.
Oui.
De Hervé. Donc c'est quelque chose, là encore, on a les thèmes favoris de Hervé avec le jeu du double. Mmh. Qui était lui-même et qui a beaucoup cultivé. Et cette musique est vraiment extraordinaire. On imagine ce que Hervé aurait pu donner si lui aussi avait pu entrer Salfavar.
Voilà, donc on va entendre ce beau métier d'Hervé, oui, dans cette valse trio. Et puis, effectivement, il faut rappeler, Hervé est quelqu'un qui a souvent écrit ses propres livrets, hein.
Ah, tout à fait.
Voilà. Énormément. C'est ce qui différencie aussi d'Offenbach.
Voilà. Mais là aussi, il y a des choses à voir. Mais on en parlera tout à l'heure.
Laissons là ces rebelles. Ôtons-nous de leurs yeux. Courons à d'autres belles qui, moins cruelles, nous traiteront mieux. Oui, d'autres belles nous traiteront mieux.
Les sentiments.
Laissons là ces rebelles.
Pris sur les flancs, je ne sais que répondre.
Je vois ici que mon temps est perdu. Plus d'une fois, on a su me confondre. Ma sauvage trop souvent a fendu. Pris sur les flancs, je ne sais que répondre. Ma sauvage. Tardeur souvent m'aura vendu. Je suis confondu.
Mes sentiments,
laissons la serre belle.
Offrons
les yeux. Nous à d'autres belles. J'ai d'autres épaules.
Alors ça, c'est un enregistrement rare d'une répétition de nos chers amis des frivolités parisiennes, hein, cet excellent orchestre qui essaie de faire revivre le répertoire léger du 19e et du 20e siècle. Et ils avaient donc monté à Caen en 2014 cet Élixir. Vous l'aviez vu, donc j'imagine.
Oui, j'avais fait une conférence sur Hervé juste avant et le spectacle était tout à fait réussi.
Voilà, et c'était sous la direction de Léo Varinsky, Étienne Jardin, L'Élixir. Vous travaillez, je crois, beaucoup maintenant sur Hervé. C'est pas évidemment une des œuvres qui a dû vous sauter aux yeux au premier abord.
L'Élixir, c'est une œuvre qui n'a pas été créée du vivant d'Hervé. C'est voilà, une œuvre qu'on a récupérée à l'état de manuscrit et qui est, bon, c'est formidable de pouvoir la réentendre et la rejouer. Mais ouais. C'est vrai que c'est symbolique d'un compositeur qui a voulu accéder aux grandes scènes parisiennes, notamment l'opéra comique. On a publié récemment, enfin il y a quelques années, un petit poche où il y avait beaucoup de lettres d'Hervé. Et les lettres qu'il écrit au directeur de l'Opéra Comique sont larmoyantes et suppliantes pour pouvoir rentrer. Et il est resté à la porte toute sa vie. Mais néanmoins, on voit qu'avec ces œuvres-là, il avait la capacité d'y aller. Et je pense que c'est une des grandes déceptions de sa vie, hein, de pas avoir cette consécration-là.
Et comment vous l'expliquez, le fait qu'il soit resté un peu sur la touche, disons, du grand monde musical?
Je pense que c'est l'affaire de 1856.
Ah oui, cette arrestation, voilà, pour une affaire d'humeur. Il avait un casier
judiciaire,
voilà.
C'était très difficile après d'entrer à l'Opéra Comique.
Ah voilà. Peut-être que c'est ça, Étienne Jardin.
Oui, Offenbach a eu du mal aussi à rentrer à l'Opéra Comique. Oui,
il y est allé souvent, somme
toute. Il y allait souvent, néanmoins, il avait à chaque fois eu un peu de mal à placer ses œuvres là-bas et à y avoir du succès. Donc je pense qu'il y avait aussi une certaine méfiance par rapport aux gens qui avaient émergé dans d'autres scènes et dans des scènes parallèles, secondaires, de les introniser en les faisant venir à l'Opéra Comique.
Alors vous-même, Étienne Jardin, faut dire, vous êtes un historien de formation. Hein. Oui. Comment est-ce que vous avez glissé de l'histoire à la musique et à l'histoire de la musique?
Assez vite, mes études ont été centrées sur l'histoire des conservatoires en France au 19e siècle. Donc oui. J'étais assez proche du sujet.
C'est un sujet social, pour le coup.
C'est ça, c'est l'histoire sociale des musiciens, ce qui est un sujet qui m'intéresse toujours, mais... J'ai eu la chance d'être recruté au Palazzetto Bruzane, qui me fait ouvrir des horizons et m'approcher de plus en plus de la musique, véritablement, plutôt que de la vie des musiciens.
Et alors, il y a aussi une chose qui m'a frappé, c'est qu'au fond, cet intérêt du Palazzetto Bruzane depuis maintenant un certain temps pour Hervé, avec les productions des Chevaliers de la Table Ronde, de Mlle Nitouche, et maintenant du compositeur Toquet et du Retour d'Ulysse, voilà, c'est un choix, j'ai envie de dire, parmi ceux que forcément le Palazzetto est obligé de faire dans l'innombrable répertoire français du 19e. Mais voilà, c'est un choix singulier après s'être intéressé à des grands compositeurs oubliés comme Théodore Dubois et d'autres, aux cantates des Prix de Rome, etc. Pourquoi Hervé ?
Alors, pourquoi pas ?
Pourquoi pas,
déjà, enfin, c'est que on s'intéresse effectivement à des compositeurs que l'histoire de la musique n'a pas forcément retenu et dont pourtant la musique est très intéressante. Et donc l'idée était de ne pas se restreindre à un répertoire sérieux ou académique, qui est aussi, enfin le répertoire de Théodore Dubois est très intéressant, et bien que mal aimé par l'histoire de la musique, et c'est intéressant de faire rejouer cette musique, mais ne pas se cantonner au sérieux était quelque chose qui était important pour nous.
Voilà. Mais donc, pourquoi pas Hervé? Mais ça aurait pu être effectivement Léo Delibes, ça aurait pu être...
Mais nous espérons avoir une longue vie et avoir l'occasion de servir d'autres compositeurs au cours des prochaines décennies.
Mais je veux dire par là que vous avez, une fois que vous en avez choisi un, vous avez envie de le creuser d'une certaine façon.
Oui, parce que l'expérience avec les Chevaliers et la Table Ronde a montré déjà l'enthousiasme du public pour cette musique, l'enthousiasme aussi des acteurs qui servaient cette œuvre et du metteur en scène. Et nous a assez vite donné envie de continuer à travailler sur ces œuvres-là et de mieux connaître ce compositeur, d'essayer de taper dans des œuvres de tout début de sa carrière, mais puis plus tardives, et essayer d'ouvrir la palette Hervé au Palazzetto. Et donc,
faire un travail de fond.
Voilà, un travail de recherche qui accompagne cette mise en scène des musiques avec donc une première publication il y a quelques années d'un livre de poche qui était juste avoir des écrits d'Hervé à disposition, et là on est en train de faire un travail plus poussé avec des journées d'études, travailler sur les partitions, mais on fait aussi des journées d'études dans le but d'écrire un livre collectif avec des chercheurs universitaires sur Hervé pour amener aussi des gens qui s'intéressent aussi à des sujets sérieux habituellement à venir vers Hervé pour apporter leur expertise sur cette musique et sur ce parcours.
Voilà. Alors donc vous, Hervé, vous l'abordez sérieusement, mais pas trop quand même.
Ah non, mais jamais trop sérieux. On n'a pas vraiment le temps d'être trop sérieux.
Non, parce que quand j'ai vu vos choix, c'est vrai que c'est des vrais airs bouffes très très joyeux et bien interprétés. Donc je me suis dit, il a quand même aussi le goût du simple plaisir de cette musique, Étienne Jardin.
Quand on est dans le public à regarder ces pièces, on rit et on est heureux. Enfin, je pense que ça n'empêche pas qu'on peut aborder ces sujets-là avec un tout petit peu de sérieux et de méthode.
On va écouter justement dans votre production du Palazzetto Bruzane, l'air de Rodomont dans Les Chevaliers de la Table Ronde, interprété par Damien Bigourdan. Il y a quelque chose à dire sur le morceau qu'on va entendre?
C'est typique d'Hervé de mettre dans ses airs, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'onomatopées, le jeu sur les sons. Et le rôle de Rodomont, ce serait presque un rôle qu'Hervé, je me demande s'il ne l'a pas joué lui-même, c'est typiquement le type de rôle qu'Hervé s'écrivait pour lui-même. Et donc, d'une certaine manière, on entend un peu la voix d'Hervé par l'intermédiaire de Damien Bigourdan.
Rodomont, extrait des Chevaliers de la Table Ronde, production donc du Palazzetto Brusane. Très bel air, Dominique Guéquière, n'est-ce pas?
C'est du Hervé pur jus. Hein,
et comment vous expliquez que cette œuvre ne figure pas tout à fait, je dirais, à côté de Chilpéric, Vlan dans l'œil ou Le Petit Faust, qui sont à peu près la même époque, dans ce qu'on cite en général quand on évoque les grands succès d'Hervé?
Et paradoxalement, les Chevaliers de la Table Ronde n'ont pas eu l'éclat qu'ils méritaient. Je pense que Hervé n'a pas tenu totalement compte de la distribution vocale et des talents vocaux qu'il avait sous la main.
Ah oui, et on revient à ce sujet, l'importance des interprètes.
Voilà. Et c'était un peu en retrait de ce que pouvaient donner certains grands noms de la distribution. Et alors, il y a eu un deuxième mouture après la guerre de 70 des Chevaliers de la Table Ronde, et là encore, c'est passé un petit peu à côté. Voilà. Mais néanmoins, on sent que c'est juste avant le grand départ d'Hervé vers les grands Hervé. Voilà. C'est juste avant L'œil crevé, juste avant Chilpéric, et après ça part.
Et puis nous voilà avec un sujet alors qui est toujours à la mode, on le sait, au cinéma, dans les séries, Camelot en quelque sorte, hein, d'Hervé.
Et finalement, le sujet est très éloigné de ce qu'on s'attendrait à avoir quand on a le titre. Hein. C'est un un concours pour gagner le cœur de la princesse, mais finalement c'est celui qui perd qui gagne la princesse. Et il est surtout question d'endettement et de cocufferie.
Mais finalement, alors, vous avez fait un choix très audacieux avec les Chevaliers de la Table Ronde. Vous êtes allé vraiment vers le chef-d'œuvre méconnu, oublié, inconnu ou presque. Et puis alors, paradoxalement, après, avec le Palatéo Brusane, vous êtes allé vers le Hervé, je dirais le plus connu, le plus passé à la postérité. À tort ou à raison, d'ailleurs, ça se discute, mais en tout cas, avec Mamselle Nitouche.
Oui, alors c'est vrai que ça peut être paradoxal, mais ça permet aussi de voir les différents genres d'Hervé. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout sur l'opéra bouffe, on est vraiment sur du vaudeville.
Vaudeville opérette,
oui, avec des petites chansons, des petits instantanés musicaux, mais qui ne sont pas du tout de la même ampleur. Je pense que l'intérêt aussi dans cette démarche qui est devenue claire après les Chevaliers de la Table Ronde, c'était de prendre une œuvre qui permettait aussi de parler du compositeur. Mamselle Nitouche, c'est une œuvre autobiographique, entre guillemets, parce que c'est pas lui qui signe son livret, mais qui s'inspire énormément de certains passages de
cette double vie entre l'église, le couvent et
l'organiste qui compose des opérettes, ce qui était le cas d'à peu près tous les auteurs d'opérettes au 19e, mais Hervé est un des premiers à faire cet aller-retour.
Il faut dire d'ailleurs, Dominique Guéquière, que ce genre vaudeville opérette qui a été très populaire, mais seulement dans les années 1880
oui,
à 90, c'est quelque chose qu'Hervé a beaucoup abordé à la
fin
de sa vie.
Parce qu'il avait Judith comme
Anna
interprète.
Judith, hein.
Anna Judith, grand nom, qui a servi également à Offenbach. Et la voix de Judith perdait un peu de son intensité, mais néanmoins, ça avait quand même une belle tenue en scène, et par conséquent, on a des longues tirades, longs passages parlés.
Plus de théâtre et moins de musique.
Plus de comédie, moins de musique. Et et comme vous le disiez tout à fait justement, les parties musicales sont moins développées. On n'a pas de grand final comme pour Chilpéric, comme dans les grands opéras bouffes.
C'est presque ce qu'on va faire au fond dans les années 1920, des pièces de théâtre avec des chansons.
On repart au vaudeville, au vaudeville initial.
Alors, on revient donc maintenant à ce retour d'Ulysse qui va être présent donc prochainement sur la scène du théâtre Marigny. On va en écouter tout de suite un deuxième extrait, le grand air de Pénélope chanté par la merveilleuse Denise Duval. Mais peut-être avant d'en reparler, il faut préciser, Dominique Guéquière, que le retour d'Ulysse aurait pu être composé aussi par Offenbach.
Tout à fait, parce que là, le cheminement.
Ça se passe à quel moment?
Le cheminement du retour d'Ulysse s'est étendu sur 5 années. Édouard Montaigne, qui avait fait le livret, a eu fini son livret en 1857. Bon. Après, il a voulu le faire jouer. Il a fait le tour des théâtres, on lui disait ça n'allait pas, etc. Soit qu'il y avait trop de ceci, pas assez de cela. Il n'y avait pas de musique à l'époque. Donc, il était un peu écœuré, il l'a rangé. En 1858, il s'est dit, tiens, je vais faire mettre un peu de musique là-dessus, ça va peut-être mieux passer. Et il a pas trouvé de compositeur. Et il s'est dit, finalement, il faut que j'aille voir Offenbach. Il est allé voir Offenbach, il lui laisse son manuscrit. Et au bout de quelques temps, Offenbach écrit à Montaigne en lui disant, passez me voir à mon bureau. Évidemment, Offenbach dit, j'ai lu votre livret, c'est très intéressant. Je écris la musique et je monte votre pièce. Montaigne ravi. Et puis le temps passe. Et il a plus de nouvelles. 1859, il va se plaindre à Sarry, son ami, en lui disant, alors Sarry lui dit, écoute, on va aborder 1860, ça fait un moment que le livret est écrit, va voir Hervé. On est en 1860, Hervé sautait de prison, il a de quelques mois, il ne mordait pas mieux à se refaire sa réputation, il signe le contrat tout de suite, et la musique est faite. Hervé composant très vite, quelques semaines après. Et après, il refait le tour des théâtres, variété, Palais Royal, Folie Dramatique, c'est un nom général. Alors il se dit, il faut que j'aille voir Offenbach. Et Offenbach a dit, ah, vous êtes allé voir Hervé pour la musique. Eh bien non, je n'afficherai votre pièce que quand j'aurai embauché comme ténor Alexis Dupont. Donc on sait aussi les aventures qu'a passé Alexis Dupont, ce qui était assez piquant pour Hervé. Et il a fallu attendre l'été 1862 pour voir naître sur une scène ce retour d'Ulysse.
Ce retour d'Ulysse donc que vous avez choisi de programmer au Palazzetto, Étienne Jardin. Un mot sur ce qui vient d'être dit?
Non, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'en plus l'œuvre est jouée dans une toute petite salle qui servait avant, donc les délassements comiques, c'est dans une salle qui servait de salle d'exposition de peinture. La salle est démolie quelques mois plus tard, donc c'est une œuvre qui a du succès pendant les quelques mois qui lui sont offertes, mais ensuite qui disparaît complètement des radars avant d'être enregistrée par l'ORTF.
Alors, on va écouter l'air de Pénélope, donc au début de ce retour d'Ulysse, qui, je crois, contrairement à la légende, là, est en train de tricoter des chaussettes, c'est
des
ça
bas.
Ah, débat.
Oui, et la nuit, elle les détricote.
Et la nuit, elle les détricote, voilà. L'adaptation du mythe d'Ulysse voilà. Par le librettiste d'Hervé. Denise Duval en 1956 dans l'air de Pénélope, extrait du retour d'Ulysse d'Hervé, à la frontière évidemment de l'air d'opéra et de la chanson de café-concert, hein, on pourrait dire oui, toujours ça. Ce style Étienne Jardin.
Un peu oui, entre les deux, avec qui, et puis, bon, là en plus on est pour une petite salle, donc on va pas se lancer dans du très grand opéra, mais on regarde du côté des cadences qu'on imite en les parodiant énormément. Voilà.
Et alors vous reprenez d'ailleurs aussi dans une petite salle du Théâtre Marigny hein, cette œuvre.
Oui, c'est dans le studio du Théâtre Marigny.
À peu près au format
c'est ça,
d'origine.
Qui permet de garder l'esprit de cette œuvre. Ouais.
Voilà, mon seul regret c'est que vous ne gardiez pas l'orchestre.
Non, c'est un piano qui accompagne cette redécouverte, mais en espérant que ça donne envie à des gens de la reprendre avec un orchestre, évidemment.
Voilà, parce que ce sont quand même des œuvres voilà, qui sont orchestrées. Je ne sais pas si on a vaguement des indications d'orchestration d'Hervé sur les partitions.
On a beaucoup de partitions d'Hervé qui ont été conservées par son fils, ensuite livrées à la Bibliothèque nationale de l'Opéra. Et donc on garde beaucoup de partitions qui permettent aujourd'hui de refaire les orchestres. Oui, bien sûr.
Alors ce retour d'Ulysse, donc, c'est un thème antique, il va y en avoir beaucoup à la même époque dans l'histoire de l'opérette, d'Orphée aux Enfers, à la Belle Hélène dont on va reparler. Ça avait ce détournement donc d'un grand sujet d'Homère, ça parlait beaucoup, j'imagine, au public parisien de l'époque.
Oui, au début du Second Empire, que ce soit donc sur les scènes légères, mais aussi à l'opéra comique, on a Psyché d'Ambroise Thomas, qui est de la même époque. À l'époque, Berlioz écrit ses Troyens aussi.
Hein. Bien sûr, oui.
Donc on a alors peut-être l'envie de parler d'une autre époque que celle qu'on est en train de vivre exactement. Donc peut-être par le biais d'une histoire très ancienne, de parler de son temps, mais sans que la censure ne puisse venir mettre son nez dedans. Et donc c'est un peu l'idée de ce retour d'Ulysse, que là on commence avec Pénélope qui finalement commence à en avoir un peu assez d'attendre son Ulysse qui est parti prendre Troie. et qui apprend que peut-être Ulysse est mort, et qu'il y a un signe qui arrive vers elle qui dit que son mari est mort. Et donc là, elle s'apprête à être convoitée, et est prête à céder
au charme d'un autre.
Voilà.
Qui s'appelle Coxigru, comme l'animal imaginaire de Rabelais. Voilà.
Sauf que Ulysse revient et, déguisé, observe ça avec quelques craintes.
Il y a aussi des allusions à l'actualité des transports parisiens de l'époque, par exemple, Dominique Guéquière.
Oui, la ligne de Sceaux, parce qu'évidemment, la ligne de Sceaux, en 1862, année de la création, avait vu son parcours modifié. C'est une chose. Et parallèlement, on dit pour Sceaux, les couplets chantent pour Sceaux, de façon à appeler les voyageurs pour aller à Sceaux, oui, mais il y a évidemment un double sens, puisque les compagnons d'Ulysse, par le biais de Circé, qui leur a offert un cocktail d'accueil, si on peut dire, ont été transformés en porcs.
En porcs, voilà. Alors, je ne sais pas si le public d'aujourd'hui peut suivre tous les détails du détournement, parce que malheureusement, notre culture de la littérature antique est sûrement moins forte qu'au 19e siècle.
Oui, mais parfois, nous échappent aussi les allusions à l'opéra actuel, c'est-à-dire que dans des œuvres comme La Belle Hélène, il y a des références directes à des grands opéras qu'à l'époque, on jouait pratiquement tous les jours à l'Opéra de Paris, de Guillaume Tell notamment, qui était évidente pour les gens qui écoutaient l'œuvre à l'époque. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, ça échappe quand même à pas mal de gens.
Alors, La Belle Hélène, un peu après le retour d'Ulysse, grand chef-d'œuvre qui lui va avoir un succès immense, et vous qui avez peut-être une partition évidemment plus ambitieuse, d'abord c'est en trois actes, oui. Mais on peut dire qu'il y a vraiment un lien, que peut-être même qu'Offenbach connaissait le retour d'Ulysse, Dominique Guéquière.
Ah ben il connaissait le retour d'Ulysse pour avoir lu le manuscrit, comme je disais.
Oui, non, mais l'œuvre, c'est ce qu'on avait fait Hervé.
Oui, oui, tout à fait, mais évidemment, La Belle Hélène a, comme vous le disiez, a tout à fait une autre dimension, mais il y a des points communs entre Hélène et Pénélope.
Voilà, c'est ça.
Il y a, dans les deux cas, le mari s'en va et oui. Il revient.
Oui.
Chez Hervé, il se cache et il surveille comment sa femme se tient, si je puis dire. Et à l'inverse, Ménélas, lui, déclenche l'assaut en disant Hola, Dieu de la Grèce, à moi, etc. En disant, c'est le drame. Et évidemment, tous les deux, dans les couplets de Pénélope, on a entendu, avec un petit accompagnement de flûte, Dieu dire à ma vertu, turlututu, etc. Et on a le même.
La vertu
dans l'invocation à Vénus, et on a également le même rythme, les mêmes jeux sur le mot « u » dans l'invocation à Vénus. Vous le voyez tous, moi je lus « u, 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 te ». Vous voyez, c'est très proche au niveau…
C'est très proche. Alors vous avez choisi l'interprétation de Jeanne Rhode, et vous parlez dans la grande tradition offenbachienne.
Grande tradition offenbachienne, et qui est un disque noir, un vinyle qui était sorti dans les années 1960, et je dois dire que c'est la première fois où j'ai entendu La Belle Hélène, donc il y a un petit peu un retour aux sources. Voilà.
Une madeleine.
La blonde fille de Léda, j'ai fait quelques bruits dans le monde, Thésée, Arcas, etc. Et pour ton bonheur terrible, mais le moyen de résister. Moi je l'ai
Jeanne Rhode dans cette Belle Hélène dirigée par Manuel Rosenthal où donc Dominique Guéquière a découvert cette œuvre.
Cette œuvre, oui.
Voilà. Et ça a été le début d'une passion
d'une longue collection,
s'est renforcée au fil du temps pour le genre de l'opéra bouffe, mais aussi de l'opéra comique. Je rappelle que vous avez écrit un livre sur Monsigny. Vous êtes passionné pour Hervé. Mais en fait, moi qui croyais que les fou d'Hervé, regardez Offenbach d'un mauvais œil. Vous avez toujours adoré Offenbach, peut-être encore même un petit peu plus qu'Hervé.
Non, les deux sont indissociables. Ils sont complémentaires.
Et donc aujourd'hui, Dominique Guéquière, vous publiez aux éditions Symétrie ce livre passionnant qui s'appelle La troupe de Jacques Offenbach. C'est vraiment un livre sur les interprètes qui ont fait ou accompagné en tout cas les grands succès d'Offenbach. On retrouve d'ailleurs parmi eux Hervé, on verra pourquoi. Mais en tout cas, toutes ces grandes figures, tout le monde connaît Hortense Schneider, mais il y a évidemment beaucoup d'autres artistes. Et ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit que d'ailleurs ces grands interprètes des succès d'Offenbach, ces grands créateurs des œuvres d'Offenbach, sont d'origine très très diverse. C'est-à-dire que les uns viennent du café-concert, les uns viennent plutôt de l'opéra et de l'opéra comique, les autres viennent plutôt du théâtre. Enfin, sont des profils assez variés au fond, hein, qui faisaient justement peut-être la richesse d'une distribution de l'époque.
C'est tout à fait ça. Offenbach avait le flair, il sent ce qu'il allait pouvoir demander à tel ou tel artiste.
Ouais, oui.
Et il composait en fonction de son ressenti et des qualités vocales de chacun d'eux.
Et ils suivaient leur spectacle. Hein. Je pense par exemple à Jean-François Bertelier, qui a été l'un de ses plus grands interprètes. Oui. Il l'avait repéré dans des cafés-concerts,
je ne sais quoi. Oui.
Et il se disait, tiens, celui-là, il pourrait être bien. Sur scène.
Le café-concert était asservi pour bon nombre de viviers. C'est là où Offenbach allait rechercher ses futurs talents.
Donc vous avez choisi de faire une série de portraits, de biographies
oui,
au fond
ça,
de
c'est une galerie de portraits.
Grands personnages du théâtre chanté de l'époque.
Voilà. Hein, voilà. Et c'est une façon d'amener, parce que lorsqu'on lit les biographies, il y en a pas mal et d'excellentes, mais parfois le nom des chanteurs est évoqué, mais ça ne va pas plus loin. Et pour un lecteur qui veut entrer dans le monde offenbachien ou hervéen, savoir le suivi d'un artiste peut être intéressant.
Mais alors, où est-ce qu'on trouve ce genre d'informations? C'est au département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale ou encore ailleurs?
En partie, mais il faut... C'est un travail d'inspecteur de police, presque le moindre indice est le bon. Il faut lire beaucoup, il faut...
Ça vous a pris combien de temps?
Plus de 5 ans,
pour donc nous proposer ces portraits. Alors, je viens de citer Jean-François Bertelier, je ne vais pas tous les citer. Victor Capoul, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui était chanté dans l'œuvre de Barbier. Zulma Bouffard, dont on a un peu oublié le nom, mais qui a été l'une des compagnes, l'une des maîtresses d'Offenbach.
Oui, avec toutes les conséquences que parfois ça a généré.
Mais beaucoup plus qu'Hortense Schneider, qu'on prend souvent, ou que le cinéma a transformé
ça a été un petit peu sucré.
Elle était moins que Bouffard, étonnante femme d'ailleurs, décrite comme une fille de l'amour et de Polichinelle, qui était physiquement...
Elle avait un visage un peu difficile, mais elle avait un talent immense, puisque elle a même chanté Johann Strauss, elle a chanté Hervé, et de chacun a obtenu des dédicaces et des compliments fabuleux.
Un autre personnage très important, dont on peut dire un mot, parce que on le voit souvent dans les photos d'époque d'Orphée aux Enfers, c'est Désiré.
Ah oui, un Lillois.
Un Lillois.
Désiré Courtecuisse de son
vrai nom. Courtecuisse, voilà. Un mot sur ce personnage.
C'est un personnage qui a commencé, il a même commencé dans des défilés tout petits. C'était un fin musicien, un instrumentiste, et il était voué à l'opéra bouffe. Et il a été le compagnon de Hervé, parce que avant d'avoir chanté Offenbach, il a chanté Hervé. Beaucoup d'ailleurs de
Don Quichotte et Sancho Panza.
Voilà,
Voilà.
Et après, il a continué chez Offenbach. Et également José Dupuis, qui avait été également trouvé par Hervé et qui s'est épanoui avec la Belle Hélène, si je puis dire, sur le Montida.
C'est peut-être un travail qui est intéressant pour quelqu'un comme vous, j'imagine, Étienne Jardin.
Suivre les chanteurs. En plus, il y a une typologie de voix qui explique aussi la façon dont les compositeurs écrivent tel ou tel rôle.
Sûr.
Et donc, de suivre justement, on a parlé de Judith tout à l'heure, qui explique le style d'Hervé dans les années 80.
C'est ça.
Énormément d'exemples.
Ils écrivaient pour des personnes précises.
Oui, alors il y en a pour l'opéra ou l'opéra comique, qu'on écrit pour des typologies de voix, des emplois, alors que c'est vrai que dans les théâtres secondaires, on est vraiment plus avec la troupe qu'on a entre les mains, parce qu'on pense que les œuvres vont pas forcément durer plus de quelques semaines ou quelques mois. Donc on a tendance à vraiment viser sur la vedette. Ouais.
Alors, il y a quand même une chose extraordinaire, on va l'écouter, même si c'est un document d'une qualité un petit peu limite, mais il se trouve qu'une des interprètes créatrices d'Offenbach est morte centenaire.
Oui.
Elle s'appelait Juliette Simon-Girard, et elle a donc enregistré, pas à la fin de sa vie, d'ailleurs bien avant la fin de sa vie, mais alors qu'elle chantait encore, oui, qu'elle était encore un peu dans la carrière, elle a gravé quelques plages d'Offenbach, et notamment cette chanson de Madame Favart qu'elle avait créée en 1878 avec ses fameuses rimes sur le i qui fait que tous les mots finissent en i. Alors faut tendre un petit peu l'oreille, mais c'est très amusant.
Ma mère aux vignes m'envoyait, aux vignes m'envoyait, je sais comment t'as fait. En partant, elle m'avait dit, elle m'avait dit, travaille ma fille, pendant je grappille, pendant je grappille. En ce matin, la main pour ici, qui prit sa main et la bénit, je ne sais comment ça dit, je ne sais comment ça dit. Qui prit sa main et la bénit, sa main et la bénit, je ne sais comment t'as fait. Suive la petite porte qui t'ouardit, porte qui t'ouardit. Travaille ma fille pendant je grappille, pendant je grappille. Même un verger le repoussé, si rudement qu'il ont tombé. Je ne sais comment t'as fait. Je ne sais comment t'as dit. Mais en tombant, ils m'ont traîné, tombant, ils m'ont traîné. Je ne sais comment t'as dit. Ni l'un ni l'autre ne se blessait, ni l'autre ne se blessait. Travaille ma fille, vendant de gratis, vendant de gratis. Sa peau elle est soumise,
le rôle de Madame Favart enregistré en 1903, donc par Juliette Simon-Girard. Ça s'écoute quand
ça
même. Voilà, 25 années après la création, qu'on a comme ça une petite idée de ce qu'a
ça pouvait donner.
Représenter cet artiste. Et vous retrouvez donc son portrait avec beaucoup d'autres dans le livre que vient de publier Dominique Guéquier, avec vraiment les chanteurs qui ont été associés à toutes les créations d'Offenbach. On pourrait en citer encore un ou deux, notamment, bon, pas sur Hortense Schneider, parce qu'on lui a déjà consacré des émissions, c'est le sujet reconnu, mais on pourrait citer par exemple Delphine Hugald, qui a été une grande artiste de la fin du 19e siècle.
Oui, toute une famille, hein, oui. La maman, la fille et la petite fille.
Voilà, une dynastie, hein, comme les Simon-Girard d'ailleurs, puisque
tout à fait,
Aimé Simon-Girard a été un grand acteur de cinéma.
De cinéma, d'Artagnan notamment.
Voilà, fils de Juliette Simon-Girard. Et puis alors, dans votre livre, vous avez aussi consacré justement un petit chapitre, mais à Hervé, parce que Hervé a été aussi un interprète d'Offenbach.
C'est par nous.
Dominique.
C'est paradoxal, mais c'est tout à fait ça. Hervé a chanté Offenbach tout à fait au début. Oh, ya, ya, you la reine des îles, puisque Hervé, enthousiaste,
théâtre,
a voulu, oui, voilà. Hervé a voulu incarner lui-même la souveraine anthropophage, et puis, tout à fait à la fin, en 1878, dans Orphée aux Enfers.
Voilà, et alors vous racontez que même pendant la représentation, parce que tout le monde savait quand même qu'il y avait une forme de concurrence entre ces deux grands personnages qui avaient inventé l'opéra bouffe, pendant la représentation, il y avait des signes fraternels entre Offenbach qui dirigeait dans la fosse et Hervé qui se penche vers lui. Pour le tout Paris, c'était comme l'image d'une réconciliation.
D'une grande retrouvaille, voilà, hein, c'est tout à fait ça. Et également, je repense aussi au retour d'Ulysse et à Henri Couder qui a débuté au délassement comique avec des ouvrages de Hervé, et Couder a créé le
aussi
rôle d'Ulysse de
dans
de
le retour d'Ulysse.
Oui, du retour d'Ulysse.
Voilà, donc ce sont deux mondes qui se croisent.
Ça se croisent, ils sont absolument inséparables. Les deux, Offenbach et Hervé, sont inséparables.
Et alors la distribution d'aujourd'hui, Étienne Jardin, évidemment, j'imagine que vous ne cherchez pas à retrouver le type des personnages de l'époque, mais vous êtes attaché aussi à la double qualité du théâtre et de la musique.
Être capable de jouer, parce qu'il y a beaucoup de choses à jouer dans cette pièce, mais aussi des vraies capacités vocales, parce que c'est exigeant, ça se chante pas comme ça au débuté.
D'ailleurs, Denise Duval et Jean Giraudeau, c'était des chanteurs très solides.
C'est toujours le cas avec la distribution actuelle. Alors, j'ai pas encore entendu la production parce que la création aura lieu dans quelques jours, à Paris du 15 au 17 mars. Mais je sais que les chanteurs sont d'une réelle qualité et que ça promet de beaux moments.
Et alors, votre amour du chant, Étienne Jardin, vous a conduit aussi à me proposer d'écouter la charmante Jeudi de Vos.
Oui, parce que donc, dans cette année Offenbach, pour le Palazzetto Bruzane, ce n'est pas seulement une année Hervé.
Et oui, rappelons, c'est le bicentenaire de la naissance d'Offenbach. Ouais.
Donc, avec beaucoup d'événements auxquels nous sommes associés.
Moins que Berlioz, je trouve ça pas juste, mais enfin bon.
On essaie d'en faire un maximum, et Berlioz, nous le laissons à d'autres, parce qu'il n'a pas besoin de nous pour
mais
être...
Mais non, Berlioz, il est fêté sans cesse, voilà. Célébré sans cesse, après avoir été peut-être trop longtemps dédaigné, mais alors Offenbach quand même, quelle figure dans l'histoire française et parisienne.
Oui, tout à fait. Alors, les Allemands se chargent de fêter aussi Offenbach, donc on a un anniversaire qui se fait des deux côtés du Rhin, mais alors, du côté Palazzetto Bruzane, dans le cadre du festival que nous avons chaque année en juin à Paris, alors nous serons partenaires à l'Opéra Comique de Madame Favart, qui sera monté à partir du 20 juin, mais nous sommes aussi en production avec Maître Péronia, qui sera donné en version concert au Théâtre des Champs-Élysées. Et dans les petits concerts de chambre que nous faisons au Bouffe du Nord, dans le cadre de ce festival, nous aurons un récital Offenbach Coloratour par Jeannie DeVos, qui est le reflet du disque qui vient de sortir et qui est merveilleux.
Alors on va l'écouter tout de suite, justement, dans un extrait d'une œuvre que je connais peu, je dois dire, si je sais pas si quelqu'un de vous peut préciser, Boule de neige, Dominique Guéquer.
Oui, Boule de neige 1871 avec des extraits.
Donc juste après le tout retour d'Offenbach dans la vie publique, si j'ose dire.
Et après la guerre. La partition, Offenbach a repris des pages de Barcouf dans
son opéra comique qui avait connu un cinglant échec.
Voilà.
Mêlant son cri solitaire au chant des plus beaux oiseaux, ma gueule
Boule de neige d'Offenbach par Jody DeVos, un choix d'Étienne Jardin qui semble convenir à Dominique Guéquière.
Ah, c'était épatant.
Épatant, voilà. Et donc, tout ça pour parler bien sûr de l'année Offenbach à laquelle on reviendra aussi dans cette émission, notamment au moment de la production de Madame Favart à l'Opéra Comique. Et puis, donc, Étienne Jardin, vous veillez, vous, comme historien et devenu presque musicologue sur tous ces cet aspect de la production, mais au Palazzetto Bruzane, vous vous occupez plus globalement de quelle partie de l'activité?
Alors, donc moi, je m'occupe des publications. Voilà. Donc, tout le travail d'édition, notamment la collection de livres que nous avons chez Actes Sud.
Voilà, une collection importante, hein, avec des travaux de fond. Là, j'ai là sous les yeux les archives du concert, ce que dit la musique, et beaucoup d'autres encore, oui.
Donc, ça, c'est une partie non négligeable de mon travail, parce qu'il faut suivre en même temps les auteurs et puis amener les manuscrits jusqu'à leur achèvement. Et je m'occupe aussi d'écrire des textes qui accompagnent les concerts. Et on a un site internet qui s'appelle la Bruzane Media Base, sur lequel on met beaucoup de documents à la fois pour les chercheurs, des archives numérisées, etc., mais aussi des textes plus grand public pour donner des biographies des compositeurs, des textes d'explication des œuvres.
Et toutes ces archives musicologiques, elles sont libres d'accès?
Tout à fait, ouais. Oui. C'est un des buts qui nous a été confié par Mme Nicole Bru, c'est de rendre la connaissance de ce répertoire le plus large possible et donc de s'adresser à tout le monde. Donc, sur Internet, évidemment, de proposer des contenus gratuits et d'essayer d'être pointu tout en parlant à tout le monde.
Et pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, je rappelle que donc Madame Brugge, vous venez d'évoquer, a créé cette fondation Bruzane, dont le nom s'explique par le fait qu'elle est installée à Venise, hein, au Palazzetto Bruzane, mais que ses activités se déroulent pour une très grosse partie en France.
En France, en Europe. Là, dans quelques jours, un festival à Montréal va avoir lieu. Le premier festival du Palazzetto Bruzane à Montréal. Voilà. Donc on essaye de rayonner à l'échelle du monde.
Voilà. Alors, à côté de Hervé, d'Offenbach, de Frédéric Barbier, qu'on a entendu tout à l'heure, il semble que vous, et je m'en réjouis, que vos ambitions dans le domaine de l'opérette ne s'arrêtent pas là, au Palazzetto. Et vous avez aussi récemment fait revivre un chef-d'œuvre, je le dis, parce que c'est une œuvre que je connais bien, du moins pour sa musique, oublié de André Messager, Les Petites Michues. Hein.
Oui, une œuvre formidable. Alors, c'était une production qui a été aussi accompagnée par un travail éditorial, puisque vous aviez reçu l'auteur de la biographie d'André Messager, Christophe Mirambeau, il y a quelques mois. C'est une œuvre qui a beaucoup tourné depuis deux saisons, qui vient de sortir en livre-disque.
Voilà, j'ai reçu avec joie.
Qui, j'espère, continuera à tourner la saison prochaine. Donc, qui est une sorte de réappropriation de cette histoire qui est censée se passer sous la Révolution, mais qui avait été transposée par le metteur en scène dans les années 60, avec beaucoup de couleurs pastel un peu.
Oui, ça se discute. Bon, est-ce qu'il faut transposer ou pas, mais
les choix des metteurs en scène se discutent toujours, mais la qualité musicale était au rendez-vous et l'œuvre est merveilleuse. Ouais.
Et ça se passe dans les Halles de Paris, et ça se termine par un mariage, et j'ai choisi ce très joli chœur dans le livre-disque qui vient de sortir.
Thank you.
Voilà, quelques années avant Ciboulette, une autre œuvre consacrée au Hall de Paris, Les Petites Michues d'André Messager, qui viennent donc de paraître en livre-disque dans la collection du Palazzetto Brusane, représentée auprès de nous ce matin par Étienne Jardin, à l'occasion de la production du Retour d'Ulysse dans quelques jours au Théâtre Marigny. Vous pouvez peut-être nous dire quels sont les interprètes, Étienne Jardin.
Donc on aura Marion Grange en Pélée-Hop, Artavas Zardian en Ulysse, Pierre Déré en Coxigru et Didier Giraldon en Albinus.
Voilà, et puis dans quelques mois, donc, ce sera Frédéric Barbier qui sera à l'honneur sur cette même scène.
Avec Charles Lecoq.
Avec Charles Lecoq, voilà.
En binôme.
En binôme.
Et en juin, on aura également un autre binôme qui est Robert Planquette et Paul Henrion.
Voilà, c'est bien un acte de Planquette aussi, qu'on connaît évidemment pour Les Cloches de Corneville. Mais...
Et un programme qui est aussi autour d'Anna Judic.
Autour d'Anna Judic.
Deux œuvres écrites pour Anna Judic.
Ben voilà, pour les amateurs d'opérette, quand même des bonnes nouvelles. Et pour les amateurs de lecture, bonne nouvelle, c'est que des éditeurs continuent à publier des livres savants comme celui de Dominique Guéquer, n'est-ce pas ?
Il fallait ça pour l'anniversaire d'Offenbach, quand même.
Voilà, La Troupe de Jacques Offenbach qui vient de paraître aux éditions Symétrie. Vous avez choisi, pour terminer cet entretien, Dominique Guéquer, un extrait de La Diva, une autre œuvre peu connue d'Offenbach. Vous nous rappelez en un mot ce que c'est que cette diva?
C'est la mise à la scène d'une partie romancée de la vie d'Hortense Schneider, La Diva. Donc c'est une manière aussi de saluer son interprète favorite.
Voilà. Il avait fait ça en quelle année?
1869, œuvre dédiée à Schneider.
Et on va écouter le final de l'acte 2, un morceau très brillant et très offenbachien. Ah. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Pour
merci,
cette matinée.
Benoît, merci bien.
Carnival, carnival, carnival. Dressing down the bed, he moves, 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 moves. Down the bed.
Offenbach comme on l'aime, le final de La Diva, un opéra bouffe chanté ici par Jennifer Larmor, Loïc Félix, Alastair Miles et quelques autres, un disque paru dans la collection Opéra Rara. Et si vous voulez donc tout savoir de la troupe de Jacques Offenbach, eh bien c'est le nom du livre de mon invité Dominique Guéquière qui vient de paraître aux éditions Symétrie. Et puis si vous avez la possibilité d'aller à Paris voir Le Retour d'Ulysse d'Hervé, je vous le recommande évidemment, c'est au Studio Marigny, dans le théâtre Marigny, donc les 15, 16 et 17 mars. Et ce sera suivi jusqu'à l'été, chaque mois, par d'autres petites opérettes, avec notamment le parrainage du Palazzetto Bruzane, dont nous parlait ce matin mon autre invité, Étienne Jardin.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais voici maintenant le vrai moment que vous attendiez tous depuis le début de l'émission. C'est évidemment le moment de notre ami Serge Elaïc. Oui Serge, bien sûr, c'est pour vous que les gens ont allumé leur poste
c'est
ce matin.
C'est évident, c'est évident.
Voilà, donc je vous
là,
laisse...
vous en faites un peu trop quand même, Benoît.
Je vous laisse la parole et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un grand musicien qu'on a évoqué récemment à propos de l'excellente production de l'opérette Normandie. Il s'agit du grand Paul Misraki, le compositeur de Ray Ventura. Et voilà, un homme qui nous revient donc aujourd'hui par le biais de la musique légère, on
tout
peut dire.
J'ai choisi quelques musiques instrumentales. Reprise donc par des orchestres, des musiques de Paul Misraki. Voilà. Et donc, c'est dans le cadre, on peut le redire, de la célébration des 110 ans de sa naissance et des 20 ans de sa disparition en 1998. Et d'ailleurs, j'avais eu la chance, à cette époque-là, en 1998, de l'interviewer un peu avant sa disparition. Mais pour débuter, c'est Michel Legrand, à qui nous donnons également un coup de chapeau, qui interprète « Venez donc chez moi », une des musiques à succès de Paul Misraki, le tout dans un style très inhabituel pour Michel Legrand, puisqu'il mêle dans son orchestre une formation Dixieland et des cordes.
Toujours aussi étonnant et débordant d'inventions, notre cher Michel Legrand.
C'est incroyable.
Hein. Serge Elaïc, beau choix. C'est un disque que j'ai sous la main, là, un 33 tours, Rendez-vous à Paris de 1962, avec donc cette musique de Misraki disparue il y a 20 ans. Enfin, quand on aime, on ne compte pas, parce que vous-même, Serge Laïc et Christophe Misraki et tous les autres, vous fêtez les 20 ans, les... même l'année des 21 ans. Hein,
tout à fait. On va recommencer l'année prochaine.
Et encore l'année des 22, c'est ça.
Alors, Paul Misraki, dont la renommée a été finalement dépassée par celle de ses succès qu'il avait écrit pour Eventura. Évidemment, tout va très bien, Madame la Marquise. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Eh bien, Misraki eut la joie, l'année de sa disparition en 1998, de voir éditer le CD d'une chanteuse américaine interprétant 12 chansons du légendaire compositeur Paul Misraki, comme cela était inscrit sur la couverture de l'album. Eh bien, j'avais demandé à Paul Misraki, donc en 1998, quelle était sa réaction devant tant de louanges.
Ça m'a beaucoup amusé d'être qualifié de légendaire, parce que être une légende, ça n'appartient pas à tout le monde. Alors j'étais assez content de cette façon de me qualifier. Alors là, c'est une chanteuse américaine, californienne, qui s'appelle Raquel Bitton, qui m'a envoyé un CD américain où elle chante mes chansons tendres, portées par une orchestration remarquable. Et Raquel Bitton, sur l'enveloppe du CD, me présente comme le légendaire compositeur français. J'ai beaucoup ri.
Quelle est finalement, d'après vous, la chanson qui a eu le plus de succès dans le monde de Paul Misraki?
Évidemment, celle qui a décidé de ma carrière et que je déteste, qui s'appelle « Tout va très bien, Madame la Marquise ».
Bien sûr, tout est allé quand même très bien avec cette chanson, malgré tout. Il y a eu un sensiblement aussi, je pense.
Ah oui, alors insensiblement, ça c'est ma préférée. Je l'ai composée en fin d'occupation allemande et je l'ai emportée aux États-Unis et c'est devenu aussi un succès là-bas.
Stéphane Grappelli au violon avec Hubert Clavecin et ses rythmes, Hubert Clavecin au clavecin, j'imagine.
Oui, bien sûr.
Serge Laïc dans Insensiblement qu'évoquait à l'instant Paul Misraki. Ça m'amuse ce qu'il dit du fait qu'il n'aimait pas Madame la Marquise.
Hein, c'est étonnant.
Mais
hein.
Succès mondial. Moi, je connais même une version soviétique enregistrée dans les années 30 en russe.
Eh ben, vous me l'apprenez. Voilà. Je ne le savais pas. Eh bien, donc pendant l'occupation allemande, Paul Misraki et d'autres musiciens de l'orchestre de Ventura s'étaient réfugiés en Amérique du Sud. Et ces musiciens avaient poursuivi leurs activités. Mais là-bas, Paul Misraki avait signé aussi des musiques comme celle du joli tango Sombra, dont nous écoutons un extrait interprété par le brillant orchestre de Percy Faith.
Thank you.
Et voilà encore une chanson de Paul Misraki, merveilleux, ou sombra, dans cette version donc de Persiface et de son orchestre enregistré en 1956 ou 57. Oui. C'est vrai que vous n'avez pas ce genre de précision.
Je baisse.
C'est ça, oui.
Énormément même. Allez, donc au-delà de la musique populaire, eh bien Paul Misraki avait toujours voulu composer plus classique et il avait d'ailleurs suivi les cours d'harmonie et de contrepoint auprès d'un grand compositeur qui s'appelait Charles Koechlin.
Exactement.
C'est ainsi qu'ensuite il a pu écrire, donc Paul Misraki, et diriger les enregistrements des musiques de près de 200 films, pas tout à fait, mais je crois qu'il y en a près de 200, réalisés par de multiples réalisateurs comme Jacques Becker, Jean-Pierre Melville ou Roger Fadim, pour lequel il signa la partition de « Et Dieu créa la femme » avec Brigitte Bardot, bien sûr. Paul Misraki avait gardé un souvenir très vif de la grande star que fut Bébé.
Brigitte Bardot, une beauté exceptionnelle, on ne l'a jamais remplacée depuis. Elle était à la ville, simple, gentille, naturelle, prête à rendre service. Elle n'avait rien du tempérament d'une star et elle avait un trac terrible. Elle n'aimait pas être vue. C'est le contraire de ce qu'on imaginait en la voyant.
Leroy Holmes et son orchestre en 1959 dans Bistro Bounce, autrement dit La Bistraille, extrait de « Et Dieu créa la femme », le film de Roger Vadim, donc musique de Paul Misraki.
Alors un des tout derniers films mis en musique par Paul Misraki fut Les Volets Clos en 1972, mis en scène par Jean-Claude Brialy. Et le thème du film fut rendu célèbre par une certaine Nicoletta. Nous avions évoqué cette musique avec Paul Misraki lors de notre rencontre en 1998.
Oui, ça m'a été très agréable de le faire. Il y avait une chanson à faire. Je me rappelle avoir demandé à l'auteur du film, si j'appelle ça « Fermons la fenêtre et laissons les volets clos », est-ce que ça peut aller? Alors on dit « Mais oui, tu es libre de faire ce que tu veux ». Alors j'ai fait donc cette chanson « Fermons la fenêtre et laissons les volets clos ». Et ça a merveilleusement bien marché.
Thank you.
Et voilà, les volets clos, encore une musique de Paul Misraki dont on entendait ce matin des versions instrumentales choisies par Serge et Laïc.
Alors, sous l'égide de son fils Christophe Misraki, que vous avez
bien
reçu
sûr,
bientôt,
salut.
Eh bien, le lundi 25 mars à 19h au Théâtre des Jazzés à Paris, eh bien, on pourra assister à nouveau au spectacle « Qu'est-ce qu'on attend pour être môme ?» Spectacle construit autour des chansons et musiques de Paul Misraki, avec 200 enfants artistes sur scène. Voilà Benoît, à bientôt.
Merci Serge, et effectivement vous aussi je vous dis à très bientôt. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique d'Ali Yaha avec Emmanuel Rose, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, eh bien, je reçois Charles-Élie Couture. Voilà, on se retrouve samedi prochain.
À réécouter sur francemusique.fr.